3 secondes à faire, 2-1, et voilà, victoire de 5-0 du Canada face à la Finlande pour ce qui est des femmes au hockey. Et pour ce qui est des gars, ben ça commence drette là, Canada, Tchéquie. Je vais évidemment vous tenir au courant du score tout au long du point de max. Et pour ce qui est de la fin de la rencontre, ben c'est Jeff Fortin dans On en jase qui aura le plaisir de pouvoir suivre ça en direct. Avant de parler de ce match-là, puis d'analyser un peu l'alignement du Canada, je tenais absolument aujourd'hui à parler à celui que j'appelle mon ami libéral, Charles Fecteau, qui est au bout du fil. Salut Charles!
Bon matin, Max, ça va?
Yes, ça va très bien, toi?
Yes.
Je voulais te parler aujourd'hui parce que hier, le Parti libéral du Québec rendait public le rapport de l'enquête indépendante menée par l'ex-juge Fournier concernant les allégations rapportées dans le Journal de Québec sur la course à la chefferie 2025 du Parti. Avant de te parler de mes impressions à moi, je suis curieux d'entendre, ça a été quoi, toi, tes premières impressions hier?
Ben écoute, j'étais un peu surpris de voir l'article sortir parce qu'honnêtement, j'avais un peu oublié. Il y a tellement de commissions d'enquête en cours là, que j'avais oublié qu'on était à la date d'échéance de ce rapport-là, mais je trouve que le rapport puis l'article de la presse, là, qui est le seul que j'ai lu, était quand même assez complet. Puis, ben la conclusion, c'est que c'est un montage. Sauf que c'est un peu plus nuancé que ça. Hein, si on lit l'article au complet, qui est quand même fourni, on voit que on n'est pas capable de dire si les textos sont authentiques ou pas parce que c'est une source journalistique, on veut pas la dévoiler. Il y a un droit d'anonymité là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que il y a eu deux conversations distinctes, de deux dates distinctes qui ont été collées dans la publication pour vendre un narratif de Branise. Donc, la conversation telle qu'on l'a vue s'était déroulée sur 2 mois complètement séparés, à 2 moments complètement séparés. Et donc, on voit que l'intention de la personne qui a dévoilé, en tout cas selon moi, là, puis on en parlera, là, mais au-delà des faits de si ça s'est passé ou pas, l'intention de la personne qui a transmis cette information-là, c'est soit de blesser directement Pablo Rodriguez et sa campagne ou de blesser le Parti libéral en général.
Première chose, tu mentionnais la presse. Je pense qu'on a toujours su que la presse est un média plus libéral et je trouve que ça a apparu beaucoup dans la façon de présenter les résultats du rapport du juge Fournier. Là. Puis tu sais, tu l'as un peu dit, quand tu lis l'article au complet, tu peux voir que c'est plus nuancé, mais quand tu voyais vite fait le grand titre avec l'intro, ça avait l'air d'être super concluant, que c'était quasiment monté de toutes pièces, alors que c'est pas ça la réalité, fait que un pouce en bas pour la presse là-dessus, sincèrement. Là. Pour ce qui est du rapport en tant que tel, moi, c'est... Puis ce que tu dis est pas faux. Tu sais, en effet, probablement que ça a été envoyé d'une certaine façon avec l'intention en tête de faire mal au parti ou à Pablo Rodriguez. L'affaire, moi, c'est que ça me fait rire de voir le juge Fournier passer en entrevue, entre autres, à LCN. Puis, tu sais, ben honnête, il avait pas vraiment les outils, il est allé au fond des choses. Il peut pas dire que ces textos-là sont faux, il peut pas dire que la source a envoyé des textos qui sont faux. Il le sait pas. Il a passé son temps hier en entrevue à quasiment dire que ce rapport-là sert à absolument rien.
Ben, je comprends ta perspective. C'est sûr que, dans la grandeur des choses, c'est pas une enquête juridique. Dans le sens où c'est comme un investigateur privé, le juge Fournier, il n'a pas de pouvoir de droit ou de loi sur le journal. Il ne peut pas convoquer des gens des séances. C'est comme n'importe quel journaliste, finalement, qui pose des questions. Donc, on a donné ce mandat-là. C'est vrai qu'il est limité dans ses outils. Toutefois, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans l'article, c'est que le journal, Marois Risky, avait contacté le journal ou avait été contacté par le journal sur ces textos-là, sur la mention de Branise. Et à l'époque, le journal n'avait pas publié les textos parce qu'il n'était pas capable de vérifier s'il était vrai, s'il était authentique. Donc, le parti avait communiqué avec le journal, puis finalement, le bureau d'enquête du journal n'avait pas publié. Et là, finalement, 18 novembre, Mme Olivier, là, députée exclue maintenant du Parti libéral, s'est fait appeler justement à propos de ces conversations-là. Et le lendemain, l'article a paru au grand public. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'à un certain moment, le bureau a jugé que les informations, les textos qu'il y avait, ne pouvaient pas vérifier l'authenticité. Et puis, quelques jours plus tard, quelques mois, je vais pas mentionner, ils ont décidé de les publier pareil. Donc, entre ces deux moments, est-ce qu'il y a eu des preuves additionnelles ou c'est juste que le journal a décidé que finalement, il allait vendre du papier et que ça allait bien sortir? Ben, ça reste qu'ils ont pris une décision avec ces textos-là que Justement, autant comme le juge, en tout cas, peut-être le journal a eu des informations additionnelles, mais qu'il n'y avait pas d'informations qui pouvaient dire absolue, ça s'est bien passé, et que les gens concernés, c'est bien un député libéral et un député caquiste, comme ils ont mentionné. C'est quand même des grosses allégations qui ont été faites, même eu des mises en demeure qui sont sorties, là, tous les propos ont été retirés, mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça, c'est la nuance que je tiens à faire. C'est dans un cours de droit, de base, le fardeau de la preuve est sur les gens qui accusent. Fait, quand on fait une déclaration comme ça, c'est pas que c'est pas vrai, c'est qu'on peut, t'sais, on peut le savoir, mais si on n'a pas toutes les preuves pour aller jusqu'au bout de la chose, on peut pas le sortir. Donc, des fois, t'sais, on a déjà vu ça du journalisme un peu cow-boy, où il y a des grosses histoires qui sont sorties, des gros scandales qui sont sortis sur des demi-vérités, mais des preuves des fois insuffisantes, mais ça a fait avancer les choses. Présentement, il y a une enquête du DGQ, il y a une enquête de l'UPAC, et ça, ils sont encore en cours. Donc, cet article-là, au final, t'as raison dans la grandeur des choses, le rapport. Est-ce qu'il y a vraiment un gros impact? Pas tant, mais ça reste que, moi, je trouve que c'est un bon résultat préliminaire. Puis de toute façon, il va soit être appuyé ou réfuté complètement parce qu'il y a deux enquêtes juridiques, donc avec des enquêteurs qui peuvent faire des mandats, qui peuvent faire des interrogations légales.
C'est ça. Moi, j'ai hâte parce que en ce moment, pour vrai, moi, ce rapport-là, aujourd'hui, j'ai pas plus d'infos que j'en avais hier matin. Là. Pour moi, ce que l'ex-juge Fournier dit, ça me fait pas changer d'idée sur quoi que ce soit. Il a beau dire une affaire, la phrase suivante est « Ouais, mais je peux pas le prouver. J'ai pas ce qu'il faut pour me permettre de le prouver. » Fait que, tu sais, pour moi, le rapport d'enquête, en fait, l'enquête qui a été demandée, on avait donné le mandat à l'ex-juge Fournier, c'était un move de « Hey, il sortira ce qui va sortir plus tard. Pour l'instant, on est en gestion de crise, puis on va essayer de montrer au monde qu'on veut aller au fond des choses, puis on s'arrangera avec le reste après. » Puis pour moi, les résultats, puis la poigne qu'a eu ou pas eu l'ex-juge Fournier là-dedans, vient prouver ça, qu'on garochait, OK, on va faire une enquête interne pour montrer qu'on est blanc comme neige, on s'arrangera avec la merde s'il y en a après.
Mais finalement, tu sais, le verre, on le voit soit à moitié plein ou à moitié vide, mais ce qu'on te dit, il peut pas prouver que c'est faux, mais moi et toi, on peut pas plus prouver que c'est vrai. C'est ça mon point. Fait que, puisqu'il peut pas prouver que c'est faux, ils sont vrais, mais tu peux pas prouver qu'ils sont vrais, fait qu'ils sont faux. Tu sais, je veux dire, la logique, parler des deux bords, c'est vraiment une question d'interprétation. Il y a personne qui peut vérifier l'authenticité. Ça veut dire personne peut confirmer ou opposer ces textos-là. Mais, fait que, tu sais, je comprends que tu dis, oui, le juge, ben, finalement, il sait pas, mais la vérité, c'est qu'on ne savait pas plus. Fait qu'on peut pas prendre ça comme un mot fiable ou des images fiables parce que finalement, personne le sait. C'est un peu ça le thème commun. C'est ça qui vient sortir. Je peux pas vérifier si c'est vrai. Je peux pas vérifier si c'est faux. Tout ce que je peux vérifier, c'est qu'il y a un montage, il y a une intention négative. Fait que déjà là, on sait que c'est pas un journaliste. Il n'y a pas une déontologie journaliste derrière cette manœuvre-là, parce que ça a été monté. Comme moi, je suis à l'université, je peux faire parler n'importe quel philosophe sur n'importe quel sujet, parce que je peux le citer hors contexte, puis faire dire ce que je veux. Mais c'est ça qui a été fait. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est la plus vieille technique qui existe. Si tu coupes deux extraits hors contexte, après ça, que je te dis, c'est que peut-être que c'est arrivé les deux choses, les brownies, l'argent, la collaboration, on ne le sait pas. Mais là, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi de dire, bon, on ne peut pas prouver que c'est faux, donc c'est vrai.
Mais peu importe le contexte, on s'entend qu'il y a des affaires louches dans ces messages-là, on peut les coller comme on veut. Là. C'est pas les gens qui ont envoyé ces textos-là, il y a des affaires louches en arrière.
Ah, mais absolument, mais c'est ça mon point, c'est exactement ça. C'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours, anodin. C'est pas comme si on était dans une vague qu'à chaque jour, il y a une nouvelle sur un politicien, des deepfakes. T'sais, c'est une grosse nouvelle. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Pis ça, c'est une des conclusions du juge dans un des textos qui parlait là, de l'homme d'affaires qui donnait des 500$ de plus à Pablo. Ouais. On en avait déjà parlé dans le passé. Il y a tellement d'histoires qui sont sorties en tellement peu de temps qu'on a commencé à faire des liens, tandis qu'ils sont probablement plusieurs petites, moyennes histoires collées, mais qui sont pas nécessairement liés. Fait que, mettons, les branlés, puis l'homme d'affaires qui donne les 500$ à Pablo, c'est deux histoires qui sont sorties en même temps, mais il y en a un qui se passe au mois d'avril, puis il y en a un autre qui se passe au mois de novembre. Fait qu'il y a ça aussi, j'ai hâte de voir avec tous les rapports d'enquête complets de l'UPAC, notamment, ça va être quoi la ligne du temps dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment un gros complot où ce que tous les dominos tombent un après l'autre, puis on l'a eu du premier coup, ou c'est plein d'histoires puis de magouilles différentes par des agents différents. Puis finalement, c'est tout, ça, tout a pété en même temps. Puis on a eu la grosse réaction. Moi, je suis très curieux autant que toi, mais je suis d'accord avec toi qu'au final, c'est pas concluant. Ça nous achète du temps, dans le sens où ce que là, on attend les rapports. Puis avec les élections, ben ça peut être dangereux. Si un rapport de l'UPAC peut sortir 3 semaines avant les élections, peut sortir 1 mois après les élections aussi, fait que ça peut être une épée de Damoclès là, au-dessus du Parti libéral en ce moment. Avec ça, je suis d'accord que le rapport, ça protège pas beaucoup le parti là, face aux risques qu'ils peuvent subir.
Charles Fecteau, un gros merci.
Allez, merci beaucoup, Max.
Le point de Max. Le point.